C'est ludique, c'est l'heure de jouer.
L'Eldorado est une contrée mythique d'Amérique du Sud, supposée regorgée d'or. Alors, ce mythe est apparu dans la région de Bogota en 1536 et il a rapidement été relayé par les conquistadors espagnols qui y ont cru. Je vous propose aussi vous d'y croire, car nous partons pour la quête de l'Eldorado, un jeu de Rainer Knizia édité par Ravensburger. Alors, ce jeu a affronté King Domino et Magic Maze en 2017 pour le Spiel. Et en ce début d'année 2023, la course de l'Eldorado est de retour. Alors, pas de changement de raid, mais un changement au niveau des illustrations, un gros relooking signé Vincent Dutray. La course de l'Eldorado, c'est un jeu de deck building familial. Chaque joueur commence avec un petit jeu de cartes. Ces cartes vont nous permettre d'avancer sur le plateau ou d'acheter de meilleures cartes. Le but du jeu, vous l'avez compris, c'est d'atteindre la légendaire cité d'or en premier. Le plateau est composé de grandes tuiles en forme d'hexagone avec de petits espaces en forme d'hexagone de plusieurs variétés. La plupart des cases ont un coût pour pouvoir vous déplacer dessus. Les cases vertes ont une, deux ou trois machettes. Les espaces bleus ont une, deux ou trois pagaies. Et les espaces dorés ont une à quatre pièces. Alors pour se déplacer sur ces cases, vous devez jouer une carte avec au moins autant de symboles correspondants. Mais comment on joue ? Eh bien, chaque joueur commence avec 8 cartes dans leur deck, 3 vertes avec une machette chacune, permettant donc le déplacement sur les espaces verts, une seule pagaie bleue permettant le déplacement sur les espaces bleus et 4 cartes dorées à une pièce permettant le déplacement sur les espaces dorés et l'achat d'autres cartes. Alors, il faut savoir que les cartes sans pièces d'or peuvent être utilisées aussi pour acheter d'autres cartes comme une demi-pièce. Il y a 6 cartes disponibles à l'achat et les autres sont placées dans des piles à proximité. Une fois qu'une pile de cartes d'amélioration initiale est achetée, un joueur peut acheter une carte de n'importe laquelle des piles disponibles. Les cartes du marché sont disposées en 3 lignes de 6 paquets de cartes, chacun contenant 3 cartes identiques, et c'est pas beaucoup, vous allez voir. Certaines cases sur le plateau ont d'autres couleurs que le vert pour la jungle ou le bleu pour l'eau. Les cases grises vous demanderont de défausser un certain nombre de cartes pour les traverser, et là, peu importe la couleur. Les cases noires, montagnes, ne peuvent pas être traversées, sauf avec la variante. Les cases rouges vont vous demander de supprimer un certain nombre de cartes, ça permet d'épurer aussi son deck et de garder les meilleures cartes et notamment celles que vous allez acquérir au marché qui sont plus puissantes. À votre tour, vous pouvez vous déplacer avec vos cartes et avec celles qu'il vous reste, vous pouvez les utiliser pour acheter de nouvelles cartes. Vous pouvez aussi garder des cartes pour le prochain tour, il faudra de toute façon refaire votre main pour en avoir 4. Quand il n'y a plus de cartes dans votre deck, eh bien vous mélangez votre défausse classique. À savoir également, les cartes que vous allez utiliser pour vous déplacer ont un coût qui n'est pas remboursable. Ça veut dire que par exemple, si vous déplacez sur une case avec 3 pagaies, vous devez jouer une seule carte avec au moins 3 pagaies. On ne peut pas jouer 3 cartes avec une pagaie chacune. Si la carte jouée dépasse le coût requis pour accéder à la case, les symboles restants sur la carte peuvent être utilisés pour se déplacer sur des espaces supplémentaires. Mais vous ne pouvez pas les garder pour la suite de votre aventure. Et puis, n'oubliez pas, il n'est pas possible de franchir une case occupée par un autre aventurier. Il faut toujours préparer son chemin dans sa tête pour éviter cette situation. La course de l'Eldorado est vraiment très accessible à toute la famille. Il faut bien réfléchir quelle carte utiliser pour se déplacer et quelle carte garder pour acheter. Alors, qui d'entre vous sera le premier à atteindre l'Eldorado ? Mystère ! En tout cas, une belle découverte pour moi qui ne connaissait pas le jeu original. Allez, d'ici quelques instants, pour une fois, on va retrouver Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes qui va nous faire le tour des nouveautés. C'est l'info ludique.
C'est ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et le lundi, on parle nouveauté, on parle info ludique habituellement avec Ludo, mais Ludo est un petit peu souffrant. Du coup, Jonathan est là pour le remplacer. Salut Jonathan.
Salut Mathieu, salut à tous.
Alors on va parler des nouveautés. Qu'est-ce qui fonctionne en ce moment au magasin ?
Oui, je voulais du coup faire un petit tour du rayon nouveauté de Terre de Jeux et vous parler un peu de trucs marquants ces dernières semaines.
Ouais.
Alors, je commence direct par mon chouchou, comme
allez,
ça c'est fait.
Vas-y.
Alors, je pense que voilà, s'il y en a qui suivent un peu l'actualité ludique, ils en ont sûrement entendu parler, c'est un jeu de Kevin Amano.
Ah.
Il s'agit de Kites.
Kites,
voilà, un jeu sur les cerfs-volants. Alors bon, une thématique qui aurait pu être celle-ci ou une autre.
Mmh.
On est sur un jeu très très familial, très abordable, qu'on peut jouer avec n'importe qui, peu importe sa culture ludique. On est sur un jeu de rapidité. Un jeu de rapidité comme on pourrait penser à Double, à Jungle Speed ou d'autres jeux du genre.
Ouais.
Là, la grosse différence avec ce qui se fait sur ces jeux de rapidité grand public, c'est qu'on est sur un jeu totalement coopératif. Encore une fois, je parle de jeu coopératif. L'idée assez géniale du jeu, mais fallait y penser, c'est qu'on va avoir des sabliers de couleurs au centre de la table, qu'on va lancer en début de partie. Et le but du jeu, c'est que ces sabliers ne se vident jamais. Pour ce faire, il va falloir les retourner. Donc voilà, on va jongler entre les sabliers. Voilà, dès qu'il commence à être vidé, il faut le retourner. Le suivant, essaie de surveiller tout ça. Ça se fait pas tout seul.
Non.
Pour ça, on a des cartes en main, des cartes de couleurs, les couleurs des sabliers. Et donc, chacun son tour, on joue une carte. Je joue la jaune, ça retourne le sablier jaune. Et donc, il faut bien se coordonner. Ça met vite la pression, il faut aller vite parce qu'il faut absolument retourner le rouge. J'ai pas de carte rouge, c'est un joueur beaucoup plus loin sur la table qu'il l'a, donc faut se dépêcher.
Ouais.
Les cartes vont nous embrouiller un peu parce que certaines d'entre elles ont plusieurs couleurs. Donc si je veux retourner le jaune et que ma carte représente un jaune et un bleu, je suis obligé de retourner le bleu au passage. Donc il faut jongler avec tout ça, je trouve que c'est assez grisant.
C'est malin, c'est...
Ça met une belle tension, et une tension comme j'aime, une vraie tension coopérative, où ça crie un peu, mais ça essaye de s'entraider tout le temps. Donc ça, c'est la base du jeu. Et dans la boîte, vous avez quelques cartes bonus. Là, pour bien faire pleurer toute la table, des cartes qui vont mettre le bazar quand elles sont tirées, retourner tous les sabliers d'un coup, interdire de parler, ce genre de bêtises. Donc voilà, Kites, si on veut un jeu simple et efficace pour toute la famille, c'est très très bien.
Ouais, Kites, c'est une référence du moment. J'en ai parlé vendredi dernier, mais forcément, c'est le jeu que tout le monde parle en ce moment. Et il est sorti vendredi dernier.
Mais oui, je risque d'être un petit peu redondant. Ce que je continue, je pense, avec un raz-de-marée ludique de ces dernières semaines. Donc là, c'est un jeu... attention, il y a une liste d'auteurs. On a Christian Kudal, Marvin Hagen, Richard Garfield et Scafelias. Il s'agit de Mindbug.
Eh ouais, Mindbug.
J'imagine que t'en as parlé aussi.
Alors, j'en ai parlé, Mindbug, mais il y a très longtemps. Enfin, très longtemps. J'en ai parlé en janvier. Il n'était pas encore sorti chez Yellow.
T'avais pris les devants.
C'est
okay.
Ça.
Et ben, j'en reparle un petit peu.
Mais oui,
parce que vraiment,
bien sûr.
Ça fait partie des choses très marquantes et où il y a du génie dans cette règle de jeu de société. Mindbug, on est sur un jeu spécialement pour deux joueurs. Ça se joue que à deux. C'est de l'affrontement avec de la carte à effet. Donc, un genre de jeu qu'on a vu et revu et re-revu. Là, un des premiers kiffs de Mindbug, c'est qu'il y a quasiment pas de règles. L'idée, c'est que vous avez une pioche de 10 cartes, vous en avez 5 en main. À votre tour, soit vous jouez une carte, soit vous activez une carte que vous avez déjà devant vous. Alors, les cartes, c'est des petites créatures, des petites bébêtes qui vont permettre de taper notre adversaire.
Ouais.
Dans les trucs très très malins, on a 3 points de vie chacun. Le premier, comme a plu, a perdu. Donc là, ça met une tension directe. Il suffit d'attaquer, réussir 3 attaques et c'est fini,
c'est fini.
Et c'est gagné. Ouais. Donc ça, déjà, c'est tout bête, mais ça crée une sorte d'immédiateté, de tension directe qui est géniale. Et l'autre coup de génie du jeu, c'est le Mindbug, d'où le titre de ce jeu. En fait, vous allez avoir la possibilité deux fois durant la partie de jouer un Mindbug. C'est-à-dire, mon adversaire joue une carte, elle est beaucoup trop forte parce qu'il a de la chance, et bien du coup, je peux jouer mon Mindbug pour lui piquer sa carte.
Ouais.
Ça va totalement rééquilibrer le jeu. Le fait, t'as une bonne carte, mais si tu la joues, je risque de te la piquer. Et ça crée aussi encore une tension, parce que le Mindbug, tu peux le faire deux fois. Donc, faut bien y réfléchir avant de le jouer. Est-ce que vraiment c'est sa carte maîtresse? Est-ce qu'il va pas me sortir un autre truc de fou furieux derrière? Moi, je suis pas forcément amateur de ce genre de jeu, mais là, il y a vraiment un petit coup de génie.
Ça marche très, très bien.
Dans cette boîte.
Donc, Mindbug.
Et le dernier, donc, qui est peut-être passé un tout petit peu plus sous les radars, mais pas totalement, je crois que tu en as parlé.
Oh oui.
C'est un jeu de Sylvain Aublin.
Oui.
Il s'agit de Brigand.
Brigand. On a fait une spéciale dessus avec l'éditeur Brigand. Le jeu d'enfoiré du moment.
Ouais, c'est ça, carrément. Donc, moi, je suis quelqu'un de bien qui joue à des jeux coopératifs, mais tous mes camarades à terre de jeu sont des méchants qui aiment bien ce genre de jeu. Et donc, c'est un coup de cœur. Alors, moi aussi, j'ai trouvé ça très, très bien. C'est un coup de cœur partagé de l'équipe. Donc, Brigand, on est sur un jeu de méchants. L'idée, c'est que déjà, on joue des crapules qui veulent s'en mettre plein les fouilles, donc ambiance moyenâgeuse. Et l'idée, c'est qu'à chaque manche, secrètement, on va jouer des cartes de sa main pour envoyer des brigands sur des lieux. Donc, tout le truc de ce genre de jeu, c'est d'essayer d'anticiper où vont nos adversaires. Parce qu'il y a des lieux qui disent que c'est bien si on est nombreux, donc là, c'est cool s'il y a d'autres joueurs qui y vont. Il y a des lieux, c'est mieux quand t'es tout seul, etc. Donc, t'essayes d'anticiper ce que vont faire les autres. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, il y a un joueur parmi nous. Alors, on sait qui c'est, lui, c'est pas un brigand, c'est quelqu'un
mais
de
oui.
bien. C'est le garde.
C'est ça.
Et lui, son taf, c'est de nous empêcher de s'en mettre plein les fouilles. Lui aussi, il va jouer des cartes. Il faut vraiment pas aller là où il va, parce qu'il nous fout en prison. Forcément, il va nous racketter un petit peu au passage. Donc, faut essayer de jouer avec tout ça. Donc, ça, c'est la base du jeu. Il y a plein de petits effets en plus. Un matos qui est cool. Un plateau qui va changer à chaque fois. Donc, c'est, moi, je trouve une belle édition, un bon jeu, du super bon
goût. Ouais, très, très bon, Brigand. Donc ça, c'est parmi les nouveautés, là. Est-ce qu'il y en a... allez, il y a 2-3 jeux, là, de t'attends, qui vont pas tarder à arriver
que... Ah, ouais, tu me prends au dépourvu. Qu'est-ce que j'attends, moi? Qu'est-ce que j'attends? Je ne sais plus. Il y a Descendance, là, qui est déjà sorti, mais pas encore chez nous.
Ouais.
Là, on est sur du gros jeu,
c'est
de
gros
gestion,
jeu, ouais.
De réédition.
Ouais.
Ces grands auteurs de jeux de société, c'est Inka et Marcus Brandt, entre autres les auteurs de Exit, mais de plein de choses. Et donc, c'est un grand classique du jeu de gestion qui ressort. Bon, j'ai pu y rejoindre un petit peu, c'est très très bien.
Comment tu sélectionnes, toi, en tant que boutique, les jeux? C'est-à-dire, comme, tu vas te dire, tiens, bah, là j'en prends 2, là j'en prends 100, là j'en prends 50. Comment tu sélectionnes les jeux?
Ah, et ben en général, on essaye de les essayer avant la sortie, quand on peut. Et après, moi, je me base beaucoup sur mes collègues,
ouais.
Savoir qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qui leur parle, et puis aussi sur la compréhension de notre clientèle, c'est ce qui est le plus important. C'est pas juste se baser sur nos goûts à nous, mais vraiment qu'est-ce qu'apprécient nos clients et du coup qu'est-ce qui va bien marcher.
Ouais.
Je pense qu'un jeu comme Kites, par exemple, ça va plaire à beaucoup de personnes qui vont passer les portes de terre de jeu.
Tu en as commandé beaucoup de Kites?
Relativement.
Ouais.
ouais, plusieurs dizaines. On avait envie de le mettre en avant. Ouais.
C'est ça. Un autre jeu, je pense que tu vas faire une grosse commande qui arrive le 7 avril, c'est Trio.
Oui, il y a Trio. Ben, en plus, tu vois, tu me poses la question. En plus, je pensais parler de ça après.
Ah,
alors effectivement, je voulais te parler de deux jeux qui vont sortir. Alors, moi, le mois d'avril va être... assez important pour mon petit cœur. Alors il y a Trio, ça va plaire énormément. Je pense que ça va être l'un des plus gros cartons de cette année en termes de jeux de société. On est sur un petit jeu de cartes. Franchement, si tu sais jouer Uno, tu sais jouer à Trio. C'est très très simple et en même temps c'est malin, c'est rigolo, c'est fourbe. Il y a de la prise de risque. Il y a tout ce qui fait que voilà. Si vous avez mis Skijo, ce genre de choses, eh ben essayez au moins Trio.
Ah,
c'est
oui,
très très bien.
Ah oui oui.
Et je pense l'un des gros coups de cœur de Terre de Jeu va aussi sortir en avril. D'accord. Alors nous, on aime bien les bêtises pour faire la rigolade à Terre de Jeu. Et il y a Branle-Bas de Wombat qui va sortir.
Oh, mais j'ai vu ça, oui.
Alors ça, pour le moment, c'est le plus gros coup de cœur du magasin.
Ah, carrément.
De tout ce qu'on a pu voir. Ah, ben, on adore ce genre de bêtises. Alors peut-être pas l'unanimité, mais pour moi, pour mon collègue Tiziano qui aime bien ce genre de bêtises aussi, pour moi, ça réunit tout ce qui est drôle dans le jeu de société. On va voir à la fois un jeu de bluff, un jeu de rapidité et d'adresse, et en même temps un jeu où on a l'air totalement débile. Branle-Bas de Wombat, l'idée, c'est qu'on va avoir des tours de Hanoï à reconstruire, des espèces de jouets pour bébés.
Ah oui, c'est vraiment des jeux.
Faut mettre des anneaux dans des bâtons, et dans le bon ordre, faut que ça fasse une jolie pyramide. Donc voilà, c'est le genre de truc que tu utilises avec ton enfant de 2 ans pour lui donner un peu de logique.
Ouais.
Et ben là, on va demander à des adultes de faire ça, mais les yeux fermés, et tous ensemble, et il y en a plein à faire. Donc là, déjà, t'as l'air très très bête. Et le truc du jeu, c'est que parmi nous, bah, il y a un traître. Il y a un traître qui ne veut pas qu'on réussisse à faire notre petit jouet de bébé. Donc lui, il va enlever des anneaux, il va mettre n'importe quoi. Sauf qu'il ne faut pas qu'il fasse griller. Donc il faut qu'il reste assez discret. Et ça met une ambiance du feu de Dieu.
je l'ai vu à Cannes.
Si t'as l'occasion de jouer, c'est extrêmement drôle.
Oui, non, mais j'ai vu. J'ai dit, mais oui, effectivement, ça fait jouet de bébé tout ça.
Ouais, carrément.
Bah, merci beaucoup Jonathan pour toute cette actualité ludique et on se retrouve jeudi. Salut Jonathan et à jeudi.
Salut Mathieu.